Nous sommes mercredi 12 juin 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Conino, notre invité spécial du jour.
Et bonsoir tout le monde.
Voilà. Bonsoir Zergy, je ne sais pas si tu nous entends Zergy. Bon, nous avons un fantôme Zergy. Nous saluons Zergy haut et fort. Nous aurons probablement Jean Fulgence, mais qui va arriver un petit peu plus tard parce qu'il est, sur la route et visiblement il y a aussi la 86 qui a été dissolue dans l'opération.
Il y a beaucoup de dissolutions en France en ce moment.
Ouais, c'est ça. En ce moment, on est un petit peu. On se sent bien liquide, quoi. C'est un peu le concept. Et encore, on a de la chance, il fait pas trop chaud. Donc,
alors,
finalement.
Alors, dissoudre, c'est même pas liquide, hein, on n'existe plus.
Ah merde. Oui. Ouais, bon, bah voilà. C'est un petit peu pas de bol. Bref, nous allons commencer cette émission par le tour traditionnel tour de table de l'actualité qui va être extrêmement court, puisqu'Antix, je crois que tu ne m'as pas transmis de sujet, ou alors j'ai raté le truc.
Non, j'ai rien trouvé.
Hein. C'est la dèche.
J'avoue que depuis 3 jours, je suis un peu occupé par un autre sujet en ce moment. Alors,
sans déconner.
Aujourd'hui, c'était très très drôle d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet.
Voilà, on va pas. Voilà.
C'est si de la bagarre, mais d'une autre façon.
Si, chers auditeurs, vous avez l'impression qu'on vous cache un truc, notamment sur un choix important que vous aurez à faire dans 3 semaines, à savoir pour ou contre le jambon. Eh bien écoutez, c'est pas du tout le cas, hein. D'ailleurs nos audiences ne sont pas corrélées par médiamétrie, donc on pourrait dire ce qu'on veut, mais on n'a pas envie, c'est ça la différence. Bref, donc ce soir on va parler baston 3D, on va revenir un petit peu sur la genèse de la baston 3D, on s'est un petit peu échauffé avec Conino, on a fait un petit peu de Soul Calibur 2.
Ah, très bon jeu.
De se remettre dans la base.
C'est ça.
Et on va commencer donc par un très court tour de table de l'actualité, puisque je vais être le seul à avoir un sujet d'actu. Peut-être si Jean arrive, il pourra nous glisser un petit mot, mais je pense que le temps de remonter les bagages et de garer la bagnole, ça va être compliqué. Bref, ça y est, c'est bon, tout le monde a laissé tomber Twitter. Bonsoir Kirby. Microsoft vient officiellement d'annoncer que le support de Twitter pour Xbox s'arrêtait. Sony l'avait annoncé il y a quelques semaines, Nintendo un petit peu avant, donc ça y est, plus personne n'a envie de payer pour Twitter.
Oui, mais il y a du porno maintenant.
Mais voilà, donc du coup, on se dit, c'est quand même un peu dommage.
Et puis il y a la liberté d'expression.
Oui.
Copyright.
La liberté d'expression à condition d'être du côté d'Elon.
Il faut, oui, sans doute.
Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que, d'une certaine manière, c'est un petit peu triste. On est en train d'assister à la mort à petit feu de Twitter depuis 1 an et demi, 2 ans qu'Elon Musk a repris le bateau, et c'est vrai qu'il y a quand même... Bon, il y a des fois où ça se justifie un peu, parce que s'il faisait un peu n'importe quoi. Là, le fait d'avoir perdu... Oui, on attend l'application Mastodon sur Switch, mais j'ai un petit doute quand même. Et on aimerait bien. Voilà, mais ça veut dire qu'on a quand même un... On a quand même du coup un peu moins de visibilité. C'est-à-dire, je pense que Breath of the Wild, une grande partie du phénomène, et Tears of the Kingdom, une grande partie du phénomène, était aussi due au fait que sur Twitter, on avait en direct des gens qui mettaient des vidéos de trucs un peu hallucinants, super facilement. Là, ça devient nettement plus compliqué.
Ouais, faut pas sous-estimer la. Bah, c'était sur quoi? C'était sur PS4.
PS4.
Il y a eu l'option. La PS4, sur sa manette, a un bouton dédié, le bouton share, pour justement partager. Sur Twitter, je pense qu'il y avait aussi Facebook de mémoire.
Oui, il devait avoir Twitter, Facebook comme tout le monde.
Mais oui, comme tu dis, la viralité YouTube. De ce genre de vidéo, enfin, tu vois, on parle de Breath of the Wild, il me semble que Elden Ring, ça a été pareil. Et en fait, c'était surtout un truc qui était intéressant, c'est permettre à des gens qui n'ont pas la capacité de capturer leur jeu sur leur console parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas envie d'investir dedans, de pouvoir juste partager un petit clip de 10 secondes. Et c'est aussi comme ça que tu fais des jeux. Hein. Je pense que des jeux genre peut-être Fall Guys, Among Us, pas mal de jeux de combat aussi, hein, maintenant qu'on en parle, ça marche aussi grâce à Twitter et à ce genre de partage.
Oui, alors on me souffle dans... Alors pas du tout dans l'oreillette, on me souffle à ma droite, que Conino me souffle qu'il y avait peut-être un bouton partagé sur YouTube, sur PS5.
Ouais, sur PS5 c'est sûr, sur PS4 j'ai un doute.
Il me semble avoir déjà transféré des clips de parties de ma PS4 à YouTube.
Ouais, donc ils ont peut-être effectivement le service. Alors, voilà. Effectivement.
Donc on nous dit, Zergy nous glisse un petit peu à quand Mastodon, moi je dirais à quand TikTok, hein, parce qu'après tout, ce serait pas un format complètement inadapté en vrai. Hein.
par l'écran qui est inversé, non.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein.
C'est ça, à part le fait d'avoir du vertical. Alors, je sais pas si c'est obligatoire, le vertical, d'ailleurs, j'ai jamais été...
Il me semble que si.
En tout cas, pourrait l'adapter.
Bah, oui, c'est possible. De toute façon, c'est déjà fait, hein, parce que la com jeu vidéo se fait aussi sur TikTok, maintenant. Et Instagram, avec les stories.
Oui. Mais tu vois, genre, partager vers Instagram comme il y a un partagé sur Facebook, à mon avis, ça devrait pas leur coûter grand-chose, mais... Peut-être que ça reviendra.
C'est la même boîte, hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en fait. Oui, ils iront ça. Là où le public est. En réalité, je pense qu'Instagram, ce sera la prochaine cible, ça me paraît évident. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément de communication politique qui se fait sur Instagram. Ça remplace Twitter pour pas mal de gens.
Comme dit Zervi, c'est toujours méta, donc...
Oui, au final, ça posera peut-être pas tant de problèmes que ça. Quoi. Je veux dire, d'un point de vue technique derrière, pour arriver à faire les choses. Bref. Eh ben, c'était très court comme tour de table. On a l'air con, c'est parfait.
Un tour de table en 140 caractères, comme un tweet.
Voilà, comme à l'ancienne.
Je sais pas si on pouvait faire meilleur hommage.
C'est ça, on a un petit peu plié le game. Alors, on va s'écouter un petit morceau du coup de la bande originale de Virtua Fighter 2, puisque c'est le prochain jeu. Je suis en train de m'appeler les crayons. Quelle horreur.
Là, il se fait taper dessus par Cognino, a priori, c'est pour ça qu'il fait des bruitages bizarres. Hein, vous inquiétez pas.
Jeu de baston 3D oblige, on se...
On est obligé de se mettre sur la gueule.
Là, on le fait en VR aussi.
C'est ça, on va être bien. Alors, voilà, j'ai retrouvé mon morceau, tout va bien. Donc, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Virtua Fighter 2. Le morceau s'appelle Ride the Tiger. C'est le morceau qui est associé à... Ayu, je crois. Ayu. Je sais plus exactement comment c'est foutu, bref. C'est pas très très grave, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour !
Et ben voilà, ça y est, tu vois, il y a du monde.
Il faut oser.
Ouais.
C'est important.
Bref, on va faire donc la bagarre, mais en 3D. On avait déjà fait une émission sur la bagarre, mais en 2D. Revenez notamment sur Street Fighter, qui était quand même un monument du jeu de baston 2D. On va s'arrêter là, parce que sinon, je sens qu'on va relancer Antix pour une demi-heure.
Wow, et encore là, on s'arrête à Street Fighter 2.
On s'arrête qu'à Street Fighter 2. Et on va commencer par... qu'est-ce qui nous permet de catégoriser un jeu comme un jeu de baston 3D? Pourquoi?
Alors, je vais faire ma première réponse, ça dépend de l'année. Non, je vais la faire plus simple. En 2024, on définirait un jeu de baston 3D comme étant un jeu de baston où on peut se déplacer en profondeur. Et lorsque le premier jeu de bâton est sorti, donc Virtua Fighter en 93, et pas en 94 comme je l'ai dit la dernière fois, petite erreur de ma part, le truc c'est qu'en fait on pouvait pas se déplacer en profondeur, et la vraie particularité c'est surtout que le jeu était en 3D. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, le milieu des années 90, c'était le moment où la 3D débarquait dans le jeu vidéo, et déjà c'était assez impressionnant. Donc la définition varie un petit peu, mais oui, globalement, l'idée c'est d'avoir des personnages en 3D qui se déplacent dans un décor avec un fond. Et on va avoir aussi quelques subtilités de différence au niveau du gameplay. Donc la profondeur arrivera évidemment par la suite. Mais surtout, c'est la façon de manier les personnages. Dans Street Fighter, un personnage se déplace sur un plan fixe, de gauche à droite, il peut sauter, il peut se baisser. Et on est sur un terrain qui a des bords. Et surtout, pour attaquer, on a des boutons de pied, des boutons de poing qui sont plus ou moins forts. Il peut faire ce qu'on appelle des commandes normales, c'est-à-dire une direction qui n'est pas la direction basse, et un coup, ça peut faire un truc spécial. Alors, je pense notamment à l'avant moyen point de Ryu, qui est un coup qui tape, qui peut casser une garde basse. Et il y a des coups spéciaux qui sont avec des quarts de cercle. Dans le jeu de combat 3D, tel qu'on le connaît actuellement, même tel qu'il était défini à l'époque, on est plus sur des arènes Alors, plus ou moins fini, avec plus ou moins des bords. Par exemple, Virtua Fighter, il y a du ring out. On sort du terrain, on perd le round. C'est comme dans le Tenkaichi Budokai de Dragon Ball, le tournoi d'arts martiaux. Et surtout, les personnages vont avoir des listes de coups qui sont beaucoup plus grandes qu'un Street Fighter classique. En fait, on va souvent se retrouver avec un bouton ou une direction va faire un coup. Par exemple, dans Tekken, si tu fais arrière-point, ça va faire un coup, si tu fais avant-point, ça va en faire un autre, et même les diagonales sont prises en compte. Vous avez joué un petit peu Kazuya dans Smash Bros, ça devrait vous parler. Donc en fait, c'est beaucoup plus de commandes normales et compagnie que de coups classiques. Et c'est un petit peu ça qui va définir le jeu de baston 3D, c'est-à-dire des personnages avec des moves beaucoup plus complexes, qui n'y paraissent, mais qui sont en même temps presque plus simples à sortir. Si vous prenez un Tekken ou un Virtua Fighter, vous pouvez sortir beaucoup plus de moves différents très facilement que dans un Street Fighter où faut connaître l'écart de cercle, savoir charger une attaque, ce genre de choses. Donc voilà un petit peu pour la base des grosses différences entre les deux. Et évidemment, on aura au bout d'un moment le déplacement en profondeur dans ce qu'on appelle le sidestep qui permet juste de se décaler en profondeur et qui va devenir un petit peu le gameplay central de Tekken et Soul Calibur dès la fin des années 90.
Voilà, mais on va repartir au tout premier jeu 3D, donc c'est Virtua Fighter, créé par le légendaire Yu Suzuki. Alors, je précise que chez Sega, il n'y a qu'un seul créateur légendaire, c'est Yu Suzuki. Hein.
Tu parles l'autre? Ah oui, non, l'autre il est en tôle.
L'autre, il est en tôle et on s'en fout, et puis en plus, il a créé Sonic, donc c'est vraiment de la merde, donc on fait pas ça. Bref, légendaire, parce que Yu Suzuki, c'est le mec qui a dit, tiens, on peut faire un jeu de moto en 2D et qui est dans 3D, et en fait, ça marche. C'est le mec qui a créé tout un tas de trucs chez Sega. C'est quand même le mec qui a inventé quasiment l'open world moderne. Je pense à Shenmue. Alors même si je ne suis pas un admirateur de Shenmue, hein, c'est
Ah, le Quick Time Event aussi.
le Quick Time Event. Enfin voilà, Yu Suzuki c'est vraiment un très grand créateur de jeux. Il n'y a absolument aucun doute. Et Virtua Fighter donc sort en 93.
Exactement.
Et donc 2 ans seulement après Street Fighter 2.
C'est ça. Et surtout, il sera en 3D. C'est le premier jeu 3D de Sega, et très probablement un des tout premiers jeux 3D de l'industrie japonaise et de l'arcade. Donc c'est pas n'importe quel jeu en fait. Quand il sort, Virtua Fighter, il n'y a rien de comparable. Ce qui fait c'est aussi pour ça en fait que le titre est resté un petit peu dans les mémoires parce que c'était assez inédit. Et c'est un jeu qui a été conçu pour plein de raisons. La première, c'est que Yu Suzuki, en fait, il voulait faire son Street Fighter à lui. Donc il s'est dit,
Forcément.
bah, je vais faire le mien. Mais mon Street Fighter, King of Fighter, c'est des séries avec des personnages qui ont des pouvoirs, qui sont souvent japonais, qui font des arts martiaux inspirés des arts martiaux japonais. Hein. Ryu, c'est une espèce de variante du karaté où il sait faire
C'est
des
le
boules de
grand
feu avec
maître
son
du
esprit.
karaté.
C'est le grand maître du karaté, voilà, pour citer cette merveilleuse vidéo. Et lui, en fait, il se dit, ben, je vais plutôt aller regarder ce qui se fait du côté des arts martiaux chinois. Donc, en fait, la légende veut qu'il parte en Chine se faire tataner la gueule pour voir un petit peu comment ça se bat là-bas, c'est quoi les mouvements. Il revient au Japon et du coup, il se lance dans Virtua Fighter. L'autre enjeu du jeu, ben, comme je disais, c'est un jeu 3D. Je pense que c'est un peu important de rappeler c'est quoi l'arcade dans l'écosystème jeux vidéo en 1993. Les bornes d'arcade, c'est le système, c'est l'écosystème en fait de jeux vidéo qui est là pour envoyer du lourd en termes de visuel. C'est un peu comme la VR maintenant.
C'est ça, c'est là où il y a du pognon et c'est là où il y a de la capacité technique.
C'est
C'est-à-dire qu'on
ça.
peut faire des machines impressionnantes parce que finalement, comme on vend les cartes à l'unité et que c'est les exploitants qui doivent se démerder pour les rentabiliser, il n'y a pas de problème, on peut se permettre de vraiment mettre les moyens, quoi. On n'est pas sûr de la console qui doit coûter pas cher.
Mais autant graphiquement que physiquement, puisque ça permettait, comme pour Street Fighter, d'avoir une borne où on mettait des vrais tatanes dedans. La
Oui,
première.
complètement. Oui.
Ouais, j'en étais où du coup? Oui, donc bah, le
On peut se
but.
permettre d'avoir les moyens.
Voilà, ça s'en peut se permettre de la voyant, du coup, il se dit, bah, on va faire de la 3D. Parce que c'est aussi un gars qui est intéressé par un petit peu l'évolution technologique. Et que bon, c'est pas la Mega Drive, c'est pas la Super Nintendo et la Mega Drive. On a déjà eu des exemples de 3D, alors peut-être pas en 93, mais on aura un petit peu plus tard, notamment avec Star Fox. Mais voilà, c'est plus sur arcade que ça va se passer. Donc, il décide de sortir ce jeu. Donc qui va avoir deux axes, on va dire, en termes de philosophie de jeu, un style très réaliste. Tous les personnages, leur coup, c'est inspiré d'arts martiaux réels. Le personnage principal, qui est Akira, donc qui pour le coup est japonais, qui est un petit peu le Ryu du jeu, se bat avec un style qui s'appelle le Bajiquan, qui est un style d'art martial assez populaire en vrai dans le jeu vidéo et même je pense en termes de représentation au cinéma, parce que c'est quelque chose d'assez explosif et assez visuel. Notamment pour ce, alors je vais faire un peu mon nerd d'arts martiaux, mais un des coups les plus connus de ce style, c'est une espèce de coup avec le dos. On voit le personnage se retourne pour frapper son adversaire et qui est censé être un coup qui est très fort parce que tu frappes avec tout le dos. Voilà, c'est un petit peu le coup emblématique. Et ça va vraiment être la philosophie derrière les visuels et les animations de Virtua Fighter, alors réaliste, évidemment, ce qu'on permet 93, hein.
Oui, alors je rappelle, il n'y a pas de motion capture à l'époque, c'est pas que la technologie existe, mais elle est encore extrêmement balbutiante. Donc il n'y a pas de motion capture, tout est absolument animé à la main. Donc avec tout ce
C'est
que vous
ça.
pouvez imaginer de difficultés pour le faire. On se permet aussi de rappeler qu'on n'a pas forcément beaucoup de place pour faire ça, donc les animations sont parfois un petit peu, on va dire, compliquées à faire. Voilà, c'est
Et puis
réaliste. Et en plus, bon, Virtua Fighter, t'as quand même un petit peu l'impression que les mecs sont sur la lune, quoi. T'as tendance à voler un peu et à être suspendu en l'air dès que tu fais un saut, c'est un peu bizarre.
ouais, ça restera dans les suivants aussi.
Oui,
C'est pas que dans le
l'espèce
premier.
de gravité un peu pétée restera.
Alors le premier d'ailleurs, je vous encourage fortement à regarder des screenshots, parce que pour faire des économies de moyens, ils ont aussi pas mis de texture. C'est
Oui, c'est
vraiment
vrai.
du
Le
polygone.
tout premier Virtua Fighter, ouais.
Le
Mais
tout
tout premier.
premier, il y en aura à partir du suivant, et déjà le suivant, je trouve, se tient beaucoup plus maintenant.
Vas-y, vas-y, je t'en
Non, mais je disais même le 2 ou la première. Il y a eu deux versions. Il y a une version, si mes souvenirs sont bons, qui était affreuse, et une version qu'ils ont retexturée après.
Ouais, c'est là.
Qui avait un nom.
Street Fighter 2
Remix,
Remix, une
ouais, un truc
c'est
comme ça.
Remix, ouais.
Donc c'était ça.
Il est sorti après Virtua Fighter 2, du coup.
Oui, c'est ça. Voilà, du
Donc
coup.
ça c'était pour la partie visuelle, et pour la partie gameplay, trois boutons, un bouton de pied, un bouton de poing et un bouton de garde. On va pouvoir combiner les boutons de direction, comme je disais avant, pour faire plusieurs coups. Donc en fait, il y a une palette de mouvements pour chaque personnage qui est assez élevée. Donc on reparlait d'animation stop motion capture, il y a du taf derrière, et qui est aussi assez unique par personnage. Et on peut combiner ces boutons, notamment les chops, c'est de poing et la garde de mémoire. Et si on combine le pied et le poing, ça va faire d'autres coups. Donc ça a l'air assez simple de prise en main, c'est un jeu d'arcade après tout. Mais il y a vraiment une grosse profondeur qui se forme. En plus, il y a des coups qui changent si jamais t'es au sol. Si jamais ton personnage est de dos à son adversaire, il y a vraiment des variantes qui peuvent se créer assez facilement. Et qu'un modèle 3D rend un peu plus facile qu'un sprite 2D où il faut tout redessiner à chaque fois.
Oui, là où les mecs ont gratté un petit peu, c'est là-dessus aussi, hein. C'est-à-dire que ça leur a... C'est compliqué de faire des animations 3D, mais c'est toujours moins cher que de redessiner tous les sprites pour une animation quand quelque chose ne va pas. Donc faut bien imaginer que là-dessus, en termes de production, finalement, on déplace un peu le problème, mais ça permet aussi d'aller faire des systèmes un petit peu plus subtils. Il y a notamment tous les systèmes à la relevée, à la contre-attaque de Virtua Fighter qui sont un peu connus, puisque tu peux faire une relevée pour aller balancer tes pieds dans la gueule du mec d'en face, tu peux faire une relevée, c'est-à-dire une roulade arrière, une roulade sur le côté, une balayette à la relevée, enfin il y a quand même tout un tas de trucs qui seraient beaucoup plus difficile à faire sur un jeu en 2D ou jusqu'à présent, que ce soit Street Fighter, Mortal Kombat, tous les jeux comme ça. Quand t'es à terre, globalement, la seule chose que tu peux faire, c'est te relever, éventuellement te relever avec une garde, et c'est à peu près tout.
Ou alors faire son gros sac en ligne et se relever avec un Shoryuken.
Oui, mais voilà, on n'est pas obligé d'être un sac à merde, hein. Ça fait partie des... Voilà. On voudrait d'ailleurs saluer le petit Eric de Nice à ce sujet-là. C'est gratuit, c'est pour moi.
Pas de politique
Ça
dans
nous
ce
fait très
podcast.
plaisir. On avait dit non, on avait dit pas Eric, voilà. On avait dit non. Bref.
On peut dire qu'il ressemble à Chêne à la limite. La
C'est ça.
moustache en moins. Enfin, la
C'est ça,
barbe en moins.
pardon, oui, oula. Bref, donc oui, Virtua Fighter, forcément gigantesque succès derrière, puisque bah, en 3D, donc très impressionnant. Je rappelle que Sega avait toute une série de jeux en 3D en arcade à l'époque,
Ah bah
que
dès
ce
qu'il y a
soit.
Virtua quelque chose.
Voilà, c'est exactement ce Virtua Racing. Alors il y a Daytona USA, mais qui arrivera un petit peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est la fameuse carte System 2. Oui, il me
Alors,
semble que c'est ça.
il y a le modèle 1 pour
System
Virtua
2, ouais,
Fighter
System 2.
et modèle 2 pour le Virtua Fighter 2.
C'est ça. Bref, donc voilà, donc de la grosse bagarre en 3D, et mine de rien, avec ce jeu-là, ils vont quand même aller jeter énormément de bases qu'on retrouvera après.
Ah bah ça pour le coup, ça, il y a énormément de choses qui vont être conservées, alors avec plus ou moins de variantes. On parlera de Tekken après, mais il n'y a pas de garde sur un bouton dans Tekken. Il y en a dans Soul Calibur par exemple. Je parlais des combinaisons de boutons, ça va se retrouver partout, hein. En tout cas dans les gros jeux principaux. Et il y a aussi bah, forcément toute une notion de mouvement qui est assez importante, puisqu'on va devoir gérer les distances pour éviter les coups de pied, les coups de poing, hein, ce genre de choses. Le Ring Out aussi qu'on va retrouver dans Soul Calibur, et avec d'autres variations par exemple dans Dead or Alive, où sortir quelqu'un de la zone de combat. Ça ne le fait pas perdre le round, mais ça va le faire dévaler une pente, par exemple, ou tomber dans une autre partie du stage. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être posées à la sortie du jeu, qui vont être retrouvées un petit peu partout, mais de manière plus ou moins différente. C'est comme Street Fighter 2 au final, qui pose énormément de bases, mais cette base va être réappropriée par plein d'autres développeurs qui ont aussi leurs idées. Mais contrairement à Street Fighter 2, et c'est là où je trouve qu'il y a une différence assez intéressante. Virtua Fighter ne va pas être aussi populaire en termes de jeu de baston 3D qu'a pu l'être Street Fighter. Ça tient à pas mal de choses. Déjà, il n'a pas bénéficié des consoles de Sega pour vraiment se faire connaître. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque sortie Street Fighter, de Virtua Fighter, pardon, la grosse console de Sega, c'est la Saturn. Et la Saturn, elle est pas faite pour la 3D en fait. Ils sont allés à fond dans la 2D. Et du coup, ben, sortir Virtua Fighter sur Saturn, c'est un peu compliqué.
Bah, il y a une version, il y a une version 32X qui est déjà très compliquée. Hein, on va quand même pas se cacher. Sergi nous dit ça tourne mal.
Ça tourne
je suis
mal.
d'accord, ça tourne mal. Voilà, non, il y a effectivement, ça a été compliqué. D'ailleurs, Virtua Fighter 2 était un des jeux qui était disponible à la sortie de la Saturn. C'était le jeu de lancement aux États-Unis, c'est sûr. Et justement, c'est là où il y a eu la version Remix, qui en fait était une version qui tournait mieux, tournait plus vite et autres, et
Tout à
qui
fait.
était, me semble-t-il, donnée gratuitement si tu ramenais ton exemplaire de Virtua Fighter 2 en magasin.
C'est bien possible, et c'est le jeu qui a porté la console au Japon.
Oui, ça m'étonnerait pas non plus, parce que bah, c'est un jeu d'arcade de Sega, donc forcément au
Exactement.
Japon, c'est toujours très très vendeur. Tu voulais aussi nous parler d'une petite évolution de la série éventuellement?
Oui, alors ça va être relativement rapide. Je vais être honnête, je connais pas aussi bien Virtua Fighter que les jeux dont on va parler après. Mais globalement, j'avais précisé au début que quand si on parle de la définition jeu 3D en 93, c'est des mecs en 3D qui se baladent sur un plan en 2D. En fait, ça pourrait être la définition Street Fighter actuellement, hein. Et en fait, ils vont commencer à rajouter vraiment la notion de la profondeur. Alors dans l'épisode 2, il y a certains coups qui permettent de passer sur le côté. Et ça va être rejeté de manière universelle à partir de l'épisode 3 avec un bouton dédié à l'esquive, qui permet de faire des esquives sur le côté. Et c'est là où en fait on va commencer à gérer aussi le fait qu'on puisse passer en profondeur. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va être un petit peu la base dans nos amis les jeux de combat 3D où finalement la gestion de la profondeur n'arrivera pas immédiatement. Après on a le 4 et le 5, qui sont un peu les deux derniers épisodes, enfin le 5 est le dernier épisode à être sorti. Mais de mémoire, ils apportent pas énormément de choses. Enfin, énormément de choses. Je connais pas assez pour savoir ce que ça apporte, en tout cas, ces épisodes-là. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que même à la sortie console, c'est des épisodes qui vont rester assez chiches en contenu.
Oui, généralement, t'as vraiment.
C'est arcade
C'est
multijoueur
arcade, c'est
training.
ça.
Voilà.
C'est vraiment. Ils ont rajouté un menu option.
Enfin, oui, non, quand même. On n'est pas des
Ça,
bêtes.
mais t'as même pas de cinématique de fin.
Ah ouais,
Et voilà. Et
quand même, merde.
bon, alors en 93, premier jeu 3D, on peut comprendre, mais à
Oui, non, mais tu
partir du
vois, oui,
3
voilà,
et
mais.
3 et du 4 qui sortiront plutôt vers. Alors le 2 c'est 94 et le 3 c'est 96. Tu dis en face 96, je crois que Final Fantasy 7. Est-ce qu'il est sorti déjà à ce moment-là? Ou c'est 97, je sais.
97.
97.
97. Bah, déjà en 96, on commence à dire, putain, on peut faire des cinématiques 3D sur PC, sur CD, ça en jette, faisons-le. Tekken le faisait déjà, par exemple. Alors c'était moche. Enfin, maintenant c'est moche. Mais voilà. Et il n'y a même pas ça dans Virtua Fighter. Globalement, ils s'en fichent un petit peu. C'est genre juste, tu fais ton mode arcade, t'as fini, et voilà, bravo.
Déjà dans
Ce qui comprend sur une borne d'arcade, mais pour des sorties console, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc c'est vrai qu'on a un jeu qui est assez. De manière générale, qui est très arts martiaux, réaliste, donc finalement qui manque un petit peu de folie. Il n'y a pas un Dalsim ou un Blanca qui va rendre le truc un petit peu, comment dire, mettre un petit peu d'arc-en-ciel, de pétillant dans ce jeu. Et après, un enrobage pour un jeu qui est quand même assez rachitique. Donc ça n'a pas vraiment aidé au succès de Virtua Fighter. Ça va être respecté parmi les fans de jeux de combat et notamment pour tout ce que ça a apporté aux jeux de baston 3D, mais finalement c'est pas lui qui va. C'est pas Sega et c'est pas Virtua Fighter qui vont faire avancer le genre, et c'est une autre série que j'ai déjà citée plusieurs fois depuis le début. Donc,
merveilleuse transition.
Merveilleuse transition, dont on va parler juste après la petite pause musicale et qui s'appelle Tekken.
Tout à fait. On va faire Tekken, on va faire aussi Soul Edge, parce qu'effectivement, il y a une parenté entre les deux malgré tout.
Ah, disons que là, globalement, on va, faut se dire un truc, c'est que nos Saga, dans les bandes d'arcade, en termes de 3D, à l'époque, a un rival, c'est Namco. Et Namco, eux, ils vont embraser le jeu de baston 3D à fond les ballons.
Ouais, ça, c'est sûr, ils vont y aller. Bref, nous allons donc nous faire une deuxième petite pause musicale. Nous allons nous écouter alors un morceau très connu, un truc qui a fait bander, hein, il faut le dire, ça a fait bander tout un tas de possesseurs de PlayStation que je connaissais. David, si tu nous écoutes, je t'emmerde. Bref, c'est pour moi, c'est gratuit, ça me fait
David
plaisir.
David de Grutola ?
Non, pas celui-là. J'aurais bien kiffé le connaître au lycée, je pense que ça devait être un sacré luron, hein, comme beaucoup de gens qu'on connaît. Bref. On va s'écouter le thème de l'ouverture de Soul Edge sur PlayStation, qui est resté un truc absolument mythique, avec cette espèce de 3D précalculée, un petit peu dégueulasse du milieu des années 90, qui moi me fait beaucoup rire aujourd'hui. C'est un morceau qui est quand même resté mythique, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après.
Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.
De retour.
À tour.
C'est bizarre d'avoir quelqu'un qui gueule tour juste à ma droite, en fait. Je vous assure, c'est extrêmement perturbant.
Je suis la voix de la réverbe.
Il n'est pas habitué.
C'est ça. J'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude que les gens, il y ait une espèce d'écran entre nous, tu vois, que ça se passe bien. Bref, nous avons été rejoints par Monsieur Fulgence.
Coucou.
Il n'a pas décidé de mettre sa pièce dans la borne en plein match d'arcade.
Non, il n'y a pas tenté.
Comme le veut la tradition.
T'es ta gueule et mes Tetris. Et voilà.
Je crois qu'il a pété un câble.
C'est l'enchaînement. Bref, donc, on a parlé de Virtua Fighter, donc la naissance du jeu 3D. On a dit que c'est un truc qui avait apporté beaucoup de choses. Ça a permis une certaine effervescence. Ça a permis d'aller trouver des trucs auxquels on s'attendait pas. D'aller poser un certain nombre de règles et d'aller surtout poser un certain nombre de pratiques qui finalement sont restées et ont perduré. Hein. Il n'y a pas de boule de feu dans un jeu de baston 3D.
Alors, maintenant, il y en a dans certains, mais...
Si.
Non, mais d'accord.
Dans un Street Fighter EX plus Alpha,
c'est...
Il y a un personnage de Street Fighter dans Tekken 7, il utilise des boules de feu. Hein.
Non, mais voilà, mais si vous voulez ce que je veux dire, c'est quand même pas une habitude.
Non.
On va dire ça comme ça. Ça fonctionne un petit peu différemment. C'est un petit peu différent. Et donc, on va se concentrer sur les deux séries de Namco, les deux séries un peu phares. On va commencer par Tekken, qui est vraiment... la série majeure du jeu de combat 3D, le truc qui rigole zéro.
Bah en fait, la seule qui sort encore et qui est d'actualité actuellement.
Ouais, c'est ça, c'est celle qui a vraiment posé les bases et qui a perduré. Et... Tekken, quoi.
C'est ça.
À la fois un peu téchonique et très accessible.
Bah oui, voilà, globalement, c'est un petit peu l'intérêt de Tekken.
Non, mais
Alors.
Tekken, c'est la telenovela des jeux vidéo.
Ah oui, alors
Oh
ça,
putain.
je me dis que c'est la seule fois où je pourrais parler du sérieux de Tekken dans un dojo bar, donc t'inquiète, je vais en profiter.
Ah merde. J'étais pas prêt. C'est pas dans le conducteur, ce nom.
Si, 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 si. Je fais exprès de le caser.
Oh le bâtard.
Bon, du coup, pour parler de Tekken, donc Tekken 94, Namco, arcade puis PlayStation, je vais surtout parler d'un autre gars, Seiichi Ishii. Et alors, si vous vous souvenez de l'émission Street Fighter, où t'avais machin qui bosse sur le premier Street, qu'après il passe chez SNK pour faire Fatal Fury, et puis il y a celui qui d'abord bosse sur Street Fighter 2, et puis après il fait Zelda sur Game Boy, et
Alors, du coup,
ben
là, c'est la telenovelas, mais au niveau développement.
voilà, globalement c'est ça. Donc Seiichi Ishii qui va être designer sur Virtua Fighter. On ne sait pas dans quelle mesure il est responsable. Alors on sait que Yu Suzuki est très mis en avant hein, sur le jeu. On ne sait pas dans quelle mesure Ishii, lui, il a contribué au jeu. Mais quand tu es game designer et que tu es designer principal d'un jeu de combat, bon, t'es quand même très influent sur ce que va faire le jeu. Et en fait, ça va se sentir puisque quand Tekken va sortir en 94, à l'issue d'un développement assez éprouvant, parce que j'écoutais. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, les podcasts de Bagropoint. Ils ont toute une série de
Tout
podcasts
à fait.
historiques qui sont très très bien. Et j'ai appris donc en l'écoutant que c'était un bordel du genre bon bah en fait les mecs ils mettaient des ils développaient des choses, ils les mettaient sur le build et puis bah pff, des fois ils effaçaient les trucs de leurs copains parce qu'ils trouvaient ça nul.
Ah ouais, on est
Donc
dans ce type d'ambiance, quoi.
on est un peu dans ce type d'ambiance. Ishii va quand même essayer de faire tenir le jeu. Et il va finalement réussir à sortir en 94. Alors c'est un jeu qui est avant tout issu d'une volonté de faire de l'expérimentation avec l'animation 3D. C'était même pas un jeu de combat à la base. Il est devenu par la suite et qui va aussi être utilisé sur un support qui s'appelle le système 11, donc qui est la borne d'arcade de Namco. Et qu'ils ont mis en place tout avec un partenariat. Alors, je sais pas si c'est en partenariat avec Sony, mais en tout cas, c'est un système d'arcade qui est proche de la PlayStation pour faciliter les portages. Parce que globalement, bon bah Sony, ils auraient été bien contents d'avoir un petit Virtua Fighter pour leur console qui venait d'arriver. Donc, hop, ils l'ont. Donc, c'est Tekken, globalement. C'est ce que va donner Tekken à sa sortie, à l'issue du développement. La principale différence avec Virtua Fighter, donc Virtua Fighter 3 boutons, un poing, un pied, une garde. Tekken, 4 boutons, pied gauche, pied droit, main gauche, main droite, la garde c'est arrière, comme dans Street Fighter.
Attends, la garde n'est pas automatique
Alors il y a une garde automatique,
Mais
quand tu restes en position neutrale et que tu fais rien.
Ouais, c'est ça.
Mais si jamais tu te fais taper en bas, bah, t'es obligé de te défendre avec la garde.
Donc t'es obligé de faire bas, enfin bas et
Diagonale bas.
bas, arrière-bas.
Diagonal
C'est comme ça.
bas. Et d'ailleurs, dans le jeu de baston 3D aussi, aux différences avec le jeu de baston 2D, dans le jeu de baston 2D, on estime que la garde de base, c'est la garde basse, donc quand le mec est accroupi, parce que tu vas contrer la majorité des coups. Dans les jeux de baston 3D, c'est la garde haute qui est la garde la plus importante, et la garde basse, c'est l'exception.
D'accord. Ça,
Donc.
c'est... Tiens, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout que c'était le... que c'était pensé comme ça.
Voilà. Et pourquoi il y a une garde d'ailleurs automatique dans Tekken? Bon, c'était juste pour éviter qu'un mec qui connaisse pas le jeu se fasse complètement bourré n'importe comment. Du coup, ils ont un petit répit avec une garde automatique qui d'ailleurs est toujours d'actualité puisque elle est toujours dans Tekken 8. Donc c'est vraiment un standard de la série dans Tekken, la garde automatique. Donc ça va être la principale différence en termes de gameplay. Pareil, le premier Tekken, ce sera sur un plan. Un plan linéaire comme Virtua Fighter, le sidestep n'arrivera que dans l'épisode 3, sur lequel je pense qu'on verra un petit peu après.
Alors, j'ai appris dans mes pérégrinations pour préparer cette émission, parce que je connais assez bien Tekken 2 en fait, qu'il y avait déjà un embryon de sidestep dans Tekken 2, mais seulement réservé au Mishima.
Ouais, alors
Qui
j'avoue,
s'appelle le misstep.
je ne connais pas tous les détails là-dessus. Bon, disons que le
Je
côté
dis.
universel du mouvement apparaîtra que dans le 3, comme Virtua Fighter.
De toute façon, Tekken, l'épisode 3, c'est vraiment celui qui a peaufiné tout ce qui était un petit peu embryonnaire, on va dire, dans les deux premiers.
Ouais, ça,
C'est un peu l'épisode parfait, c'est le seul qu'il faudrait jouer, en fait, ouais. S'il y en a un sur les trois sur PlayStation, c'est celui-là.
Oui, non, mais globalement, Tekken 3, c'est l'épisode majeur de la série, celui qui a... Je crois que pendant très longtemps, avant le succès de Tekken 7, c'est l'épisode le plus vendu de la série. D'ailleurs, pour y avoir testé un petit peu, je le trouve encore très jouable et regardable pour un jeu de 98.
Je confirme
Donc,
même
c'est...
même sur émulateur et tout ça, c'est... J'ai refait un tout petit peu de Tekken 3, c'est vrai que c'est propre. C'est très très propre. Pour de la PlayStation, c'est vraiment très très propre.
Alors que tu regardes Tekken 1, c'est dur. Hein.
C'est un peu choupin. Tekken 2 est pas si dégueulasse que ça, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de textures, il y a encore beaucoup d'absence de texture en fait, beaucoup d'aplats de couleurs, beaucoup de choses comme ça.
Et puis Tekken 3 avait des cinématiques léchées, alors que le 2 c'est pareil, c'est une bouillie de polygones dégueulasse.
Ouais, non, mais
il y a cette cinématique mythique de Tekken 1, la conclusion du scénario de Kazuya.
Ah oui.
Où il fait un regard face caméra, je ne sais pas quelle est cette expression.
C'est le fameux sourire face cam après avoir balancé son père dans le volcan.
Ah oui.
Ah bah très très bonne transition d'ailleurs. C'est Ken.
Putain, on a
c'est vraiment le sourire. J'ai foutu du caca partout et j'ai caché la balayette.
C'est ça.
Les enfoirés.
Alors, je parlais du développement un peu foutraque de Tekken, ça va se ressentir dans le jeu. La principale différence avec Virtua Fighter, c'est qu'on va à la fois avoir un jeu qui est beaucoup plus sombre, parce qu'il y a tout un scénario autour de la famille Mishima, donc Kazuya, personnage de Super Smash Bros, en guest dans Tekken, et Heihachi, personnage de Soul Calibur 2 sur PlayStation 2, en guest dans Tekken aussi. C'est des gens qui se détestent, un père et un fils. Et qui vont passer les trois quarts de leur temps à balancer l'autre du haut d'une falaise dès qu'ils auront gagné. Scénario.
C'est un genre de tradition.
C'est une tradition familiale qui se perpétue encore de nos jours, où vraiment on en rigole. Ça se veut sérieux, ça se prend très très au sérieux. Et en même temps, c'est très très second degré, c'est très... j'allais pas dire nanar, mais tu sens que les mecs, même maintenant, les scénaristes de Tekken, ils en jouent de ces aspects-là. Et à côté, eh bien dans le casting, tu as un ours. Voilà.
Oui, parce que pourquoi pas ? Un ours, un robot.
Il y a un panda
et un
ninja
robot.
Et un petit dinosaure.
Il n'y a pas un panda aussi ?
Alors le panda, ça arrivera un petit peu plus tard.
Il n'y a pas un kangourou aussi ?
Si, si, je crois que dans le 2, il y a le kangourou et tu as le vélociraptor.
Il y a le vélociraptor exact et il y a Gon qui était une star au Japon dans un manga.
Ouais, qui arrivera dans le 3, Gon.
Quel enfer.
Oui, qui est un vrai manga qui apparemment avait eu beaucoup de succès à l'époque.
Et vraiment, Tekken, alors moi je suis rentré par la partie un petit peu en découvrant le scénario, l'univers, parce qu'à chaque fois on parlait des mecs qui se balançaient du haut des falaises, j'ai fait bon ok, qu'est-ce qui se passe dans Tekken?
Il y a un gars, il balance un mec du haut d'une falaise, puis après il fait un sourire un petit peu bizarre.
Et après, dans l'épisode d'après, le mec est tombé de la falaise, il remonte, il revit, et là, il bat son fils et il le balance dans un volcan.
Et donc là, il revit.
Exactement.
Quel
et au bout de cet épisode, il finit lui aussi par le balancer dans un volcan.
Donc c'est une sorte de tradition familiale de balancer papa dans le volcan.
T'as pas vu le trailer de Kazuya sur Smash ? C'était totalement ça, quoi.
Ah mais oui, si, je me rappelle.
Si, voilà, quand je te dis que c'est un héritage qui est assumé dans la série par les développeurs, voilà, même dans Smash, ils y font référence.
Oui, c'est le côté, c'était une énorme connerie, machin, mais c'est devenu un peu légendaire, justement, parce que c'est très con.
Voilà, et en fait, je pense que c'est aussi ça qui va faire que Tekken va rester dans les mémoires, outre le fait qu'il est sorti sur PlayStation, qui était quand même la console de l'époque. C'est aussi ce côté... Bon, on essaie d'être un peu réaliste, mais c'est aussi un petit peu le bordel, quoi. Et ça nous fait marrer. Enfin, t'as un personnage qui a une coupe... globalement, si vous connaissez Jean-Pierre Polnareff dans Jojo Bizarre Adventure, bah, il a la même coupe de cheveux et son rival c'est l'ours.
Oui.
L'ours qui est le garde du corps de Heihachi et qui l'a élevé comme son fils mais en l'aimant plus que ses fils quoi.
Mais c'est un ours, c'est normal.
Typico, enfin,
moi, si j'avais été entre mes enfants et un ours, je préfère l'ours, hein, on va être très clair. Hein. C'est marrant, ça gueule pas.
D'ailleurs, ils sont partis, j'ai entendu la porte claquer.
Peut-être pas.
Donc voilà,
non, c'est bon, ils sont outrés.
Tekken, c'est cette ambiance, mais à côté, on a quand même un jeu qui est vraiment technique, qui se base beaucoup justement sur la. Qui va se baser, alors, pas dès le premier épisode, mais ça va surtout être dans le 3, qui se base énormément sur les mouvements, les déplacements, la capacité des joueurs à rentrer, sortir de la zone d'attaque d'un adversaire, donc exactement comme finalement un vrai combattant martial. Après, le truc qui va être célèbre en termes de gameplay, c'est comment tu combos. Alors, je crois que c'est aussi un peu le cas dans Virtua Fighter. Globalement, c'est pas un système de combo un petit peu à la Street Fighter où tu peux annuler un coup normal par un coup spécial, vu qu'il y a surtout des coups normaux. Et là, l'idée, en fait, c'est de mettre son adversaire en l'air et le juggle. Donc, c'est-à-dire continuer à lui taper dessus pendant qu'il vole. C'est comme jongler avec une balle, sauf que c'est un être humain. et qu'on joue en lui mettant des patates.
Mais tout est logique.
Tout est normal.
Voilà, mais c'est comme ça qu'on joue à Tekken. Bon, si un jour vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, bah allez voir un match pro de Tekken. Alors je vous recommande très fortement, pour rester un petit peu français, un match assez légendaire de Super Akuma sur Tekken 7. Alors lui il joue Akuma, mais vous allez voir le principe est le même. Vous allez voir que Tekken c'est un jeu où les combos peuvent être très longs, très redoutables, et que c'est pas parce que t'as ta barre de vie complète que l'adversaire est au bord de la mort que t'as gagné.
Ah putain, quel enfer. Donc ouais, en fait, en termes de on va dire de jeu compétitif, c'est celui qui arrive à faire le combo le plus profond finalement qui va s'en sortir, c'est ça en gros.
Ah, en fait, c'est vraiment le but dans Tekken, c'est de réussir à créer une ouverture de garde. Donc soit avec soit en feintant une approche pour que le mec tape dans le vide et riposte derrière, et après bah essayer de conserver son combo le plus longtemps possible. Bon, en fait, c'est valable pour n'importe quel jeu de baston. Mais le fait que Tekken joue avec la profondeur et des listes de coups qui peuvent se compter par centaines pour certains personnages, ça offre énormément de possibilités, énormément d'approches. C'est pour ça que c'est un jeu qui est très très riche, Tekken, qui fait même parfois un petit peu peur aux joueurs compétitifs. Mais ça fait aussi partie du fait, comme ça reste accessible de base, parce que c'est facile d'enchaîner des coups, vu que ben tu fais une direction avec un bouton, tu fais un coup, t'en fais un autre, tu fais un autre coup. T'as des enchaînements un peu de base prévus, genre tu fais point gauche, point droit, point gauche, bah ça fait un enchaînement. C'est quand même très plaisant à prendre en main, mais si tu veux vraiment y aller à fond, ah, tu peux y passer des centaines d'heures, hein, c'est pas un problème.
Ouais, ça j'en doute pas. De toute façon, comme tout ce genre de jeu-là, hein, finalement, c'est facile à maîtriser. Et encore, Tekken, je trouve que c'est peut-être moins accessible qu'un Virtua Fighter. Un Virtua Fighter, comme t'as vraiment trois boutons et t'as un côté très 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 immédiat, Tekken est déjà un peu plus compliqué à rentrer dedans.
Ouais, après Tekken, ça a aussi ce côté très friendly, où quoi que tu fasses, il va se passer quelque chose à l'écran.
Sortir un truc, oui,
au moins à l'écran, ça reste visuellement agréable, et c'est toujours agréable à regarder, même s'il se passe n'importe quoi.
Ouais, c'est une des grandes forces pour le coup de la série, qui s'use bien avec un personnage qui s'appelle Eddie Gordo, qui fait de la capoeira, et qui apparaîtra dans Tekken 3, où vraiment, pour le coup, lui, il s'arrête jamais. Hein.
Comme Maxi dans Soul Calibur, d'ailleurs.
Exactement.
Et une transition merveilleuse.
Ah là, pour s'en servir de la télénovela.
Incroyable. Pour Soul Calibur.
C'est la Dream Team, quoi. On va parler de... Alors, Soul Edge / Soul Blade. Je sais plus quelle est la version japonaise.
Soul Edge, c'est la version Jap.
Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai dit Soul Edge, mais en fait, c'est Soul Blade en Europe.
En Occident. Alors, a priori, ça s'appelle Soul Blade parce que Edge, c'était détenu par le magazine de jeu.
Ah merde, sérieux?
J'ai cru voir ça. Alors après, est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est la vérité? Moi, j'ai des doutes.
Ah, je sais pas. Je sais que les développeurs japonais sont peut-être un peu frileux parce que je sais que les Resident Evil, c'est pas une légende. Hein. C'est vraiment Biohazard, c'était un groupe de métal américain, donc c'était pas possible.
C'est comme Star Fox aussi qui avait été renommé Starwing en Europe pour des raisons de droit ailleurs. Dark Soul Edge.
Non mais voilà, mais Star Fox, alors Star Fox c'est un truc encore plus con, c'est un machin allemand, une compagnie de téléphonie allemande qui s'appelait Star Vox, sauf qu'en allemand ça se prononce Star Fox, donc les mecs ils pouvaient pas.
Non mais sérieusement, un homophone.
Un homophone, tout à fait.
Ah non, oui, mais c'est bon, quand t'as pas la puissance qu'ont les éditeurs de jeux vidéo maintenant, tu te fais discret quoi.
Puis en plus t'as aussi une question de... Alors en fait, techniquement dans certains pays d'Europe, mais peut-être pas tous, c'est peut-être aussi Dark Souls. Non. Il y a des lois qui sont aussi assez peu connues, en fait, je pense, des éditeurs japonais, notamment. Mais en France, par exemple, deux sociétés qui ont le même nom, ça ne pose pas problème si elles sont dans deux domaines complètement différents. Deux produits qui ont le même nom, c'est pareil, ça ne pose pas de problème si c'est deux produits qui sont dans deux domaines totalement différents. Voilà. Tu peux pas réserver un nom et l'utiliser pour n'importe quoi. Il y avait un truc un peu connu il y a quelques années qui disait le bonheur appartient à Lactel. C'est-à-dire que c'est Danone, le groupe, qui a acheté bonheur. Mais en fait, ils ont acheté le mot bonheur pour pouvoir l'utiliser dans des marques de yaourt, mais pas autre chose. Quoi. En gros, ils peuvent pas faire une voiture qui s'appellerait bonheur. Ça marcherait pas.
Je suis étonné parce qu'il me semblait qu'en France, on n'avait pas le droit de posséder un nom commun. Enfin, un nom,
on peut le faire dans certaines conditions. D'accord. C'est un peu plus subtil que ça, malheureusement. Bref, donc Soul Edge / Soul Blade / Soul Calibur. Là, on est dans un truc un petit peu différent, puisque c'est du combat à l'arme blanche. Hein, les gens ont des... Alors, arme blanche, pas des fusils, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des bâtons?
Ça dépend.
Oui, bien sûr, Kilik. Tout ce qui est tranchant et contondant.
Il y en a un, il a un flingue.
Il y en a un, il a un flingue. Ah oui, c'est vrai.
Il y en a un, il triche. Il y en a un, il est top tier depuis qu'il existe.
Bizarrement, c'est le pirate.
Il y en a un qui a des bombes, un arc et des flèches.
Oui, ça aussi, mais on en reparlera.
On en reparlera après lui.
On en reparlera. Donc oui, c'est essentiellement de l'arme blanche, c'est bon.
Oui.
On peut dire ça, voilà, ça y est. Les bases du système de jeu étant encore un petit peu différentes d'un Tekken ou d'un Virtua Fighter, puisque là l'idée c'est d'avoir 3 touches d'attaque.
Ou d'un Battle Arena Tokiden qui lui était à l'arme blanche aussi.
Effectivement, Battle, dont on parlera un peu après.
Oui, mais c'est pas ouf.
Des petits trucs qu'on s'est gardés pour la fin.
La merde, mais c'était le premier en 3D,
voilà.
Waouh, c'était le futur.
C'était le turfu. Mais voilà, on avait effectivement 3 touches d'attaque. Il y avait en gros un slash vertical, un slash horizontal, puisque c'est de l'arme blanche, un kick, une garde. Et à partir de ça, des combinaisons de boutons et effectivement un saut.
Ridicule.
Écoute, il est là. Il a le bénéfice d'être là.
Le saut, il pourrait l'enlever en vrai. Hein. C'est tellement ridicule que.
Ouais, ça, généralement, dans les jeux de combat 3D, le saut, c'est pas ouf. Hein.
Bah, sauf Virtua Fighter, puisque t'as vraiment.
À part Smash Bros.
Ah, Smash Bros, c'est encore un cas à part.
Voilà. Et tu as tout un. Pardon, tout un système de... ce qu'on appelle le guard impact, c'est-à-dire quand tu arrives à mettre ta garde exactement au moment où le coup va arriver sur toi, où tu peux déclencher un contre-puissant, donc tu as tout un système de pierre-feuille-ciseaux qui se remet en place dans Soul Calibur, et qui permet effectivement qu'un personnage qui a énormément d'allonge va être généralement plutôt lent, donc plutôt sensible au guard impact. Tu vas avoir tout un système de chop en fonction de comment tu es placé, de comment l'adversaire est placé, de la direction que tu as maintenue en faisant ta chop, et ainsi de suite. Il va vraiment y avoir des grosses grosses variantes. Il y a du ring out, c'est-à-dire que on en a fait tout à l'heure.
Oui, c'est une méthode complètement légite. Je me suis fait ailleurs par mes potes. Hein. Je les mettais ring out avec Talim dans le dos.
Ouais, Konino, première partie, il est arrivé. Alors déjà, il m'a mis une grosse pâtée. Puis ensuite, j'étais presque au bord de la main. Et hop, dehors.
Ouais, ici, on se fait inviter pour être humilié.
Voilà. C'est intéressant.
Scandale.
C'est un scandale. Bref, donc c'est extrêmement défoulant comme jeu d'ailleurs. Ça reste toujours des belles références. Alors il y a du mouvement effectivement en 3D puisque tu as du sidestep, je crois.
Il y a du sidestep
sous Calibur, pas sous Ledge.
Non, dans Soul Edge il y en a, mais c'est extrêmement timide.
Voilà, c'est vraiment dans Soul Calibur qu'ils vont dire hey, nous on a un super système pour bouger en profondeur comme vous voulez.
C'est ouais. Ça qui est très fluide par rapport à ce qui se faisait avant, effectivement.
Et je crois que du coup, en fait, tu peux faire du sidestep viteuf. Et par contre, Soul Calibur a introduit carrément la course. Sur
le Eightway Run.
Voilà,
parce que c'est Namco, faut qu'ils mettent des noms compliqués.
Et je crois bien avoir vu un copyright à chaque fois que le nom est cité. Alors par contre, il y a un truc que Soul Edge fait, qui je crois, à ma connaissance, n'a pas été fait depuis, c'est que quand tu parais trop avec ton arme, elle avait une durabilité, elle se pétait. Et du coup, après, tu terminais le combat à main nue.
Ouais, je le supprimais dans les autres.
Ah ouais, je confirme.
Très Samurai Shodan dans l'esprit, ça, d'ailleurs,
voilà,
le fait de finir à main nue.
Et c'est très rigolo. Et du coup, chacun avait un peu son style de combat à main nue. Mais bon, c'était quand même plus compliqué. Parce que là où Soul Edge fait bon usage de la 3D, c'est que avec les armes blanches, du coup, les hitbox sont plus du tout les mêmes que si c'était des combattants à main nue, quoi.
Oui, il y a un côté un peu... j'allais dire, c'est peut-être, entre guillemets, plus simple. Mais c'est vrai que connecter une épée au mec d'en face... c'est beaucoup plus, je trouve, naturel que d'aller connecter les points. Ça veut dire que tu peux avoir deux combattants qui sont un petit peu plus éloignés l'un de l'autre.
Ouais, tout à fait.
Pour le coup, je trouve que... alors, cela, je n'y ai pas trop joué, mais Soul Calibur et ses suites sont extrêmement faciles à comprendre et à jouer. Déjà, Tekken, je trouve que par rapport à Street Fighter, c'est quand même plus facile à jouer pour un débutant. Mais Soul Calibur, je trouve que c'est encore plus simple parce que la logique, elle est simple. T'as un coup qui fait horizontal, un vertical, et tu peux mettre des coups de pied si t'as envie, et t'as la longueur de l'arme, quoi.
Et la particularité des coups verticaux, c'est que du coup, en général, ils ont meilleure portée sur l'axe dans lequel ils tapent, mais ils ont aucune portée sur la 3D. Tandis que les coups, justement, horizontaux, servent à choper les mecs qui se baladent sur la profondeur, en fait.
Ouais, tout Soul Calibur, en tout cas à partir de Soul Calibur sur Dreamcast repose sur le fait que le coup horizontal bat le déplacement sur le côté, qui bat le coup vertical, qui bat le coup horizontal.
Tu te retrouves avec de nouveau un système de pierre-feuille-ciseaux, mais au niveau des déplacements, sachant que tu as déjà un plus ou moins système de pierre-feuille-ciseaux pour les questions de garde, parce que évidemment la chope casse la garde et ainsi de suite, donc tu as vraiment plusieurs systèmes qui se mettent en place, et là c'est vraiment pensé autour de la 3D, c'est pas du tout comme un Virtua Fighter qui finalement, la 3D est quelque chose de pas secondaire, mais Il y a des choses qui ont été pensées, mais on n'est pas encore complètement dans le vrai déplacement 3D, on n'est pas encore complètement dans le gameplay intégré en 3D. Là, avec Soul Calibur, on y est carrément. Tekken un peu aussi, hein. On va quand même pas cracher dessus. Mais voilà, Soul Calibur, on est vraiment dedans, effectivement, on a intégré complètement le mode de déplacement, le fait qu'on soit dans une arène, le fait qu'il y ait du ring out, tout ça s'est intégré à l'intérieur du jeu.
Et le fait aussi que alors c'est beaucoup moins le cas dans les jeux les autres jeux 3D, mais un mur c'est un mur, et du coup t'as certains personnages qui ont des techniques qui permettent de sauter sur un mur et de taper le gars ensuite, quoi. Et ça c'est, et les arènes qui ont genre un côté un mur, enfin sur de, par exemple deux faces d'un carré, par exemple t'as un mur puis le reste c'est du ring out, c'est surtout Soul Calibur, Soul Edge qui l'ont introduit, quoi. C'était pas tant utilisé sur les autres jeux.
Voilà. Il faut aussi rappeler que alors Soul Calibur, ça a été un des jeux de lancement de la Dreamcast, au moins en Occident. Je ne sais pas si c'est le cas au Japon, ouais. Je ne pense pas.
Oui. Au Japon, je crois pas.
C'était un jeu de lancement.
C'était un jeu de lancement.
Alors, ouais. Japon, c'est le 5 août 99. Donc, ouais, je pense que c'était après.
En Europe, possible. En Europe, aux États-Unis.
On a vu de gros problèmes d'approvisionnement sur la console, puisqu'ils avaient favorisé les États-Unis, puisque ça a marché très fort là-bas, et ils ont tout bourré aux États-Unis pour vendre.
Ouais, mais de toute façon, ils n'avaient pas trop le choix.
Et nous, on était la cinquième roue du carrosse. Donc,
comme d'habitude.
Donc, ouais, on a dû avoir les deux sorties qui étaient presque coordonnées à peu de choses près.
Voilà, parce que Soul Calibur, ça a quand même été sur Dreamcast la grosse claque dans la gueule. Hein. Je veux dire, je me rappelle, moi, de l'époque où, effectivement, c'est le truc, on est quand même en 99, en 2000.
Ah, le jeu était magnifique.
Europe, le jeu se tient encore très bien, d'ailleurs.
C'est une période où tout à fait. On faisait mieux sur console, avec Tekken 3 et avec Soul Calibur, qu'en arcade.
Tout à fait.
Ouais. En plus, c'était souvent des versions, alors Soul Calibur comme Tekken 3, des versions où ils rajoutaient énormément de buts de jeu. T'avais un mode solo pour Soul Calibur, t'avais le Tekken Ball dans Tekken. Donc vraiment, la version console, c'est pensé pour de la console. Je parlais de Virtua Fighter qui était très chiche en contenu.
Tekken, c'est un florilège parce qu'il y avait aussi l'espèce de beat'em all.
Tekken Force.
Qui durait hyper longtemps. Enfin, ils se moquaient pas de nous.
Ouais, ouais, non, c'était vraiment des bons contenus.
Moins, un peu moins. C'était pas 47 DLC pour acheter un jeu, voilà. Baba.
C'est ça. Mais traditionnellement, même dans la série Soul Calibur, c'était d'abord arcade et ensuite console. Il y a que un épisode, à ma connaissance, qui déroge à cette règle. Et malheureusement, c'est l'épisode le plus truffé de bugs et le moins équilibré, quoi.
C'est lequel ?
C'est Soul 4-3. Soul 4-3 a fait d'abord console, ensuite arcade. Et du coup, c'est enrichi sur la version arcade. Alors d'habitude, c'est l'inverse.
Ce qui est un peu débile, quand même.
Ce qui est un peu débile, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et je sais pas non plus pourquoi ils l'ont sorti que sur PS2. Ça aussi, c'était débile.
Bon, ça, c'est sûrement un deal avec Namco, avec Sony.
C'est bien possible. Il y a un...
Parce que les épisodes GameCube et Xbox étaient bien vendus.
Je pense que GameCube,
oui,
a bien marché.
C'était un des plus vendus.
Ah ouais.
Sur Soul Calibur 2.
Bah, t'as Link dedans, quoi.
T'as Link dedans. Donc, je pense que c'est toujours pareil. Alors, faut qu'on parle justement des suites, parce que finalement, autant Virtua Fighter, les suites se sont fait un peu attendre, et Virtua Fighter 1, 2, mais ensuite, il y a quand même une espèce de longue traversée du désert.
Avant. Non, le 3 est sorti en 96, je crois que c'est surtout entre le 4 et le 5 qu'il y a une grosse différence. Et le 5, il n'y en a pas eu depuis, hein, et le 5 qui date de la Xbox 360 de mémoire.
Non, c'est vrai que c'est voilà. Autant côté Tekken, ça a toujours continué, et côté Soul Calibur, c'est pareil. Hein, on a toujours eu des suites, et notamment quelques suites un petit peu mythiques.
Bah, Soul Calibur 2, surtout. Avec Link, qui avait ses guests selon ta version. D'ailleurs, c'est celui qui va commencer la tradition d'avoir des guests dans quasiment tous les Soul Calibur. Je crois qu'il y a le 3 qu'on n'a pas, mais tous les autres en ont un. Au moins un.
Ouais, c'est pas... Le 3, est-ce qu'il y avait un guest ? Il me semble pas, mais effectivement les autres, on a eu Soulka avec Soulka 4 avec Vador et Yoda.
Selon la console.
Pourquoi? Soulka 5 avait
Ezio,
tout à fait. Soulka 6 du coup a comment il s'appelle, Geralt de Rive.
Geralt est en DLC, t'as 2B et le héros de Samurai Shodown.
Oui, c'est vrai, oui. Et voilà, et ouais, il me semble que le 3 effectivement n'a rien. Le 3 avait prévu d'avoir Dante de Devil May Cry, et a priori ça s'est pas fait. Ah, je ne sais pas pourquoi.
Il s'est dit qu'il voulait pas avoir le sticker sur la boîte lui aussi.
Je ne sais pas, et c'est la raison pour laquelle, du coup, dans cet épisode-là, Killik n'a pas son manteau rouge, parce qu'on aurait pu le confondre avec Dante.
Je savais pas ça.
Bah, c'est des petites anecdotes comme ça, c'est pour moi, c'est gratuit.
Allô.
Ah putain, Mecton, il arrive, en profite pour débarquer.
Bonjour Mecton.
Salut.
Mecton, le mec qui... Voilà. Ça devrait aller mieux. Voilà, là on est revenu en direct. Ça devrait aller mieux. Là on peut plus rien, c'est normal. Ouais. Ça devrait aller mieux, je note. Non mais là c'est bon. Donc on a Mecton qui est revenu. Bref, Donc, vous faites comme si de rien n'était, hein, on rattrapera ça au montage comme d'habitude.
Il le fera pas.
Je mettrai les deux MP3 directement sans rien.
T'auras qu'à mettre les vannes du montage après générique.
C'est ça, on va faire ça. Donc on en était à... Je sais plus. Le Kazoo est de retour aussi. On en était à Soul Calibur et ses nombreux héritages.
Bah c'est suite quoi, globalement.
Oui mais il y avait un truc particulier sur l'héritage. Moi j'ai noté dans le conducteur... Un truc, donc il y a la tradition des personnages invités dont on vient de parler, on avait Soul Calibur 2, alors je crois effectivement dans le 3 il n'y en avait peut-être pas, mais dans le 4 on avait Dark Vador sur Xbox, Yoda sur PlayStation 4.
Ah non, c'était l'inverse.
Ou l'inverse.
C'est l'inverse, parce que Dark Vador il est noir comme la PlayStation 3, wow. Alors que Yoda il est blanc et vert comme la Xbox 360.
Waouh. Et il y avait la taille des bonnets, hein. Je suis désolé moi, voilà.
Ah bah,
très grande tradition.
Je vous conseille d'aller regarder le personnage d'Ivy.
C'est une grosse tradition.
Voilà, grosse tradition.
Oui, oui. Il y a un moment où elle devient mature, où elle part au Brésil, je sais pas. Mais
il se passe où ses boobs, sont plus gros que sa tête. Et vraiment, c'était un peu la vanne. C'est que plus la série avançait et plus les héroïnes, elles avaient les tailles de bonnet qui augmentaient et moins elles étaient vêtues. Alors Ivy, c'est l'exemple, hein. Mais c'est pareil pour toutes les autres.
Non mais, faut quand même dire que Soul Calibur 2, c'est la téton édition.
Ah oui, clairement.
C'est vrai que tout à l'heure, on dirait en jeu, dès que t'es un peu en haute définition, t'as une sortie HDMI, là, c'est vraiment, ils ont rajouté des petites textures de tétons chez tout le monde. Hein.
Même Voldo. Les tétons de Taki.
Même
Voldo.
Alors, ça, c'est pas une texture de tétons, c'est juste sa tenue de BDSM. Hein.
C'est le bump mapping.
Alors, pour ceux qui connaissent pas, du coup, Voldo, c'est le zombie sadomasochiste gardien de tombe italien. Voilà, Camoulox.
Non, on avait dit, on a déjà fait les volcans, quoi, merde.
Il y a ça, mais pour ce qui est de dévêtir les héroïnes, surtout, beaucoup moins les héros, malheureusement, c'est selon les épisodes. Dans Soul Calibur 2, Ivy est moins vêtue que dans Soul Calibur 4. Et ensuite, ça s'est à nouveau inversé dans Soul Calibur... Non, pardon, dans Soul Calibur 3, pardon. Et dans le 4, elle est à nouveau quasi à poil.
Non, mais elle a un string en métal.
Par contre, la taille du bonnet, oui, c'est un bonnet à chaque épisode.
C'est que dans Soul Calibur 4, on pourrait créer des persos en maillot de bain, en slip, c'était n'importe quoi aussi.
On peut dans le 3, mais on peut pas régler leur taille de bonnet de soutien-gorge, oui, c'était un gros problème.
D'ailleurs, c'était un des gimmicks du 3 et qui va rester dans le reste de la série, c'est que tu pourras créer ton propre personnage.
Avec des morceaux des autres.
Oh, mais quelle horreur. Oui,
c'est ça. Mais alors ça, la customisation dans les jeux 3D de Namco, ça va être la folie, hein. Tekken à partir du 5... Les mecs se mettent à customiser leur personnage avec n'importe quelle tenue, ça n'a aucun sens.
Oui, mais ça c'est connu, c'est comme ça que t'as des mecs qui faisaient Mario et Luigi, c'est... Ça donnait un peu n'importe quoi.
Ganondorf, des trucs comme ça.
Bref. Écoutez, pour finir sur ces histoires de jeux en 3D, on va citer quelques runner-up.
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec la sortie de Virtua Fighter et le succès de Tekken, en gros, tout le monde voulait son jeu 3D. Et faire un jeu 3D, c'est plus simple que faire un jeu 2D, parce que la 3D, ça coûte moins cher, globalement. Donc t'as vraiment eu une tétrachier de jeux 3D. De tout et n'importe quoi, des biens, des pas biens. Donc c'est pour ça qu'on aborde tout ça.
On en a quelques-uns là. On a Dead or Alive,
voilà,
qui est quand même...
Voilà, on a eu la Boobs Factory.
Boobs Factory.
Mais qui pour le coup, les épisodes 2 et 3 sont des grosses démos techniques de la Dreamcast et de la PlayStation 2. Hein.
Tout à fait.
Au-delà du Boobs, du moteur physique des Boobs.
Le premier est sorti d'abord sur Saturn, et il me semblait que c'était aussi... Alors,
peut-être d'abord sur Saturn, ensuite sur Arcade, ouais. Mais sur Saturn, oui, c'est une belle démo technique de la Saturn. Il y a notamment de la Boobs
Saturn,
physique.
Tu mens.
Du tout, il y a des bons jeux 3D sur Saturn, je maintiens.
Ça arrive,
il y a des erreurs de casting, ça arrive.
On peut les compter sur les doigts d'une main.
Effectivement.
Voilà, on en a cité quelques-uns parce qu'ils ont tous une petite originalité ou un petit truc un peu rigolo. Il y a Star Wars Master of Terrascassi qui est probablement un des meilleurs jeux de baston 3D de l'histoire. Hein.
Putain.
Pas du tout.
Mais c'est pour vous montrer que c'est pas facile à faire.
Non, mais c'est pour dire à quel point tout le monde voulait sur le jeu de baston 3D. Quoi, t'as un jeu de baston 3D Star Wars
qui a pas beaucoup de sens et qui est absolument moisax. Enfin bref.
Il coûte combien par curiosité?
Pas très cher. Hein,
gratuit en émulation.
Toujours.
Ah oui, j'oubliais.
On évoquera peut-être ça, Mecton. Effectivement, on a dans la période un petit peu tôt, on a Fighters Destiny sur N64 qui avait un système un peu original puisque c'est des arènes qui sont très limitées en taille. Et en fait, on ne bat pas son adversaire quand on détruit sa barre de vie, parce que finalement, c'est ça le principe à peu près à chaque fois. On bat son adversaire quand on marque un certain nombre de points. Et en fait, marquer les points, et ça fonctionne finalement, on se rapproche presque du vrai art martial, ça ressemble un peu au judo, c'est, t'arrives à lui mettre une mandale dans la gueule, c'est un point, tu le fais tomber à terre, c'est deux points, tu fais un ring out, c'est trois points, et en fait, à 9 points, t'as gagné. Mais finalement, ce que tu vas épuiser, c'est sa barre d'endurance, c'est pas sa barre de vie. Donc t'as une barre d'endurance qui se recharge un peu lentement, et à chaque fois que tu prends un coup, ta barre d'endurance baisse, et donc du coup tu peux moins aller donner des patates derrière, t'as moins de force, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un Fighter's Destiny, il y a vraiment un petit truc un peu original. C'est pas un jeu avec une réalisation extraordinaire, mais t'as vraiment 2-3 petites nuances qui méritaient peut-être d'être citées. C'est pas mauvais. Quelques petits trucs un peu intéressants.
C'est tellement la misère sur 64.
Sur le jeu combat, voilà.
Il n'y a pas grand chose, quoi,
par. Espèce de Battle Dragon, je sais pas quoi, qui était
une bouse. Voilà. Sur PlayStation, on a Tobal, dont tu nous parlais tout à l'heure, Colino, d'ailleurs.
Oui, alors j'ai une affection particulière pour ces jeux-là, parce que le côté cinématique est pleinement assumé, et chaque personnage a toujours des cinématiques qui sont très chouettes, et puis bah, Akira Toriyama. Hein.
Ouais, d'ailleurs, tu veux savoir qui est la personne qui a réalisé ce jeu ? Parce que j'étais depuis le début de cette
émission. Non, je veux...
Bah c'est Ishii, parce qu'après Tekken, il s'est barré chez Square.
Oh putain, le mec est une grosse bombe, voilà, il faut le dire.
Tobal, c'était Square ? Putain, j'apprends un truc.
Ouais.
Oui, oui, d'où les nombreuses cinématiques qui sont hallucinantes pour l'époque, surtout le 2, hein, le 2 pour ça. Et...
C'était l'argument marketing de Square.
Et le 2 n'est jamais sorti clairement. Chez nous, malheureusement.
Sorti qu'au Japon.
Il est sorti qu'au Japon, on a eu droit au 1. Qui...
D'ailleurs, c'est dans lequel de Tobal ou Toriyama, il est jouable en personnage caché ?
Aucune idée.
Quoi ?
Ça, je vous apprends un truc. Je sais plus dans quel Tobal, si vous connaissez un petit peu Toriyama, notamment dans Dragon Ball, il se représente toujours avec un personnage qui a une espèce de masque en métal. Et ce petit personnage est jouable dans un des deux Tobal, je ne sais plus lequel.
Oh, intéressant. Bah
c'est un personnage caché. C'est un personnage caché.
D'accord, mais tu me donnes envie de ressortir la play pour tester ça.
Et ben voilà. Petit objectif du week-end.
Journalisme total.
il a vite saisi le truc du journalisme total, hein. c'est amusant ça. Bref, on a Battle Arena Toshinden qui est aussi resté un petit peu. Alors, qui n'est pas un jeu extraordinaire non plus.
C'est un jeu sorti de la PlayStation, ça. Hein.
C'est le premier jeu de combat de la PlayStation.
Quand t'as rien à te mettre sous la dent, entre deux démons pourris et un jeu de baston pourri, mais qu'en 3D, c'est le futur.
C'est le turfu, donc on y va.
T'as payé ta console $2.99, tu te dis, bon, bah,
c'est ça.
C'est le futur.
Alors après, c'est quand même un des premiers jeux qui avait un sidestep officiel, hein, je veux dire que c'est pas un truc.
Il y avait des armes, je sais plus si elles se cassaient, mais il y avait des armes.
Je crois pas qu'elles se
cassaient. Si
elles
se cassaient, ouais. Il y avait le perso avec une belle boule de feu, mais voilà, c'est très loin tout ça, c'est très carré, on peut plus le regarder aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué. Alors par contre, tu vois, c'était parfaitement logique de l'avoir sur le PlayStation Mini, tu vois, il y avait un côté,
oui, tout
côté
à fait.
Évident, tu vois, d'avoir vraiment un jeu historique. Légendaire, mauvais, mais légendaire.
Historique, ouais.
C'est ça. On nous a cité Airgates, alors je sais plus si, je crois que c'est Antix qui avait mis Airgates.
Ouais, mauvais. Ça me faisait marrer parce qu'ils ont mis des personnages de Final Fantasy VII, quoi.
Non, c'est vraiment pas fou comme jeu. Hein. Okay,
c'est aussi Ishii qui s'en est occupé chez Square. Hein.
Le mec a bouffé toutes les crèmeries, quoi.
C'est le jeu, je pense que son argument de vente c'était « Ah, mais vous pouvez jouer Cloud, Sephiroth et Tifa », et c'est à peu près tout.
Bah, oui, c'est ça.
Tobal était vendu avec la démo de FF7 au Japon. Donc ça fait quelque part un renvoi à FF7 encore une fois. Voilà, c'est la boucle est bouclée là-dessus.
Je vais en citer un dernier sur N64, alors qui est pareil, il n'est pas un truc extraordinaire, mais qui fait des choses un petit peu intéressantes et intelligentes, et qui préfigurera un petit jeu Dreamcast que vous connaissez peut-être de Capcom, qui est de la bataille en arène.
Power Stone.
Ah oui, Power Stone, ouais.
Voilà, donc c'est Mace de Dark Age. Donc pareil, c'est un jeu qui est sorti alors en Europe, qui était sorti avec la console, peut-être aux États-Unis aussi, je ne crois pas qu'il soit sorti au Japon, c'est un jeu de Acclaim, qui mélange en fait les fatalités de Mortal Kombat, du jeu en arène avec des éléments du décor destructible et des éléments que tu peux balancer à la gueule de l'adversaire. Donc c'est extrêmement fouillis, c'est pas terrible comme jeu, mais il y a plein d'idées qui seront prises derrière dans un Power Stone et dans d'autres jeux en arène, type, alors je pensais au Naruto Shippuden, je pensais au DBZ Budokai Tenkaichi et autres, dans lequel t'as ce côté, on tourne autour de l'adversaire, on va aller prendre un truc, on va aller se planquer derrière un poteau, un machin, une baignoire, enfin c'est un peu le bordel.
C'est un jeu qui finalement, en fait ce genre de truc où effectivement t'es dans une arène, tu balances des conneries et tu peux te planquer, etc., ça a dû marquer pas mal de gens, parce qu'aujourd'hui, t'as pas mal de devs, enfin pas mal, t'as quelques devs comme ça qui sortent des jeux de combat, et qui disent, bah ouais, l'inspiration, Power Stone, c'est vraiment... Oui.
Bah c'est fun, Power Stone.
Mais en même temps, ça, c'est vrai que ça a l'air fun.
Génial, Power Stone, c'est vraiment génial.
Ce que je comprends pas, surtout, il y a Power Stone 1 et 2, tous les deux sur Dreamcast sont jamais ressortis ailleurs.
Ils étaient... Le 1 était en arcade, le 2, je crois, je sais plus.
C'est vrai qu'il y a un côté...
Mais si, ils sont sortis sur PSP. Dans
merde.
une
oui, donc en fait ils sont pas sortis.
Une compile. mais c'était très bien, toujours jouable à 4, donc toujours très fun.
Tout à fait.
Il y a un dernier jeu que je voulais citer moi.
Oui.
C'est que à cette époque-là Street Fighter c'était un peu pas très existant, le 3 c'était bien planté. Mais du coup t'avais des Street Fighter en 3D aussi, des Street Fighter X.
X plus Alpha.
X, oui, non, c'est bon.
Donc voilà, c'est vraiment quand je dis tout le monde voulait son jeu 3D, même Capcom a voulu faire un Street Fighter 3D.
Ah, Becton vient de nous rappeler d'ailleurs, il y a Rival School aussi. Hein.
Oui, c'était oui, trop bon ça.
Il y avait de la profondeur ou c'était juste en 3D hein.
Je crois que c'était juste en 3D. Ah non, parce que c'était une arène, tu pouvais casser les grilles qui étaient autour
oui,
de toi
si je me souviens.
Ah oui, de mémoire, il y avait du step quand même.
Je sais plus.
Je connais pas assez bien Rival School là pour le coup.
Mais c'était très cool.
Ouais, ça avait pas assez bonne popularité.
Bref, eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait un bon petit tour, on fera peut-être une dernière émission sur la baston 3D pour parler, enfin sur la baston de manière générale, pour parler, on va dire, des jeux un peu plus modernes, on va dire de l'entrée dans l'ère moderne, là, on a déjà fait pas mal de choses. En attendant, on vous fait de très très gros bisous, je ne sais pas si on se retrouvera dans 2 semaines, on attend ce putain de Nintendo Direct du mois de juin qu'on nous avait promis, et qui n'était pas annoncé, je suis très déçu Nintendo.
On parie combien le 26 à 23h?
Allez, bâtard quoi. Ils vont le faire le jeudi, tu vois. Ben, j'en ai rien à foutre, on décalera l'émission. Je m'en bats la race. Voilà, donc peut-être qu'on se retrouve dans 2 semaines, peut-être pas. Enfin, je pense qu'on va quand même se retrouver dans 2 semaines, parce que j'aimerais faire une petite dernière émission. On a un dernier petit sujet dans la besace pour la fin de cette saison. Et on a surtout un nouveau petit jeu qu'on va pouvoir faire en direct, seulement sur Twitch. Malheureusement, vous l'aurez pas en radio. Mais je pense qu'il va être extrêmement drôle. Bref. Quoi qu'il arrive, on vous fait de très 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 gros bisous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao ciao.
Bisous.